France Culture.
Alors que Friedrich Merz fait ses premiers pas comme nouveau chancelier, alors qu'il a annoncé une rupture d'époque, dans un contexte où l'Allemagne doute de son modèle et de son avenir, une question ce soir, le couple franco-allemand est-il encore moteur de l'Europe? Et deux invités pour tenter d'y répondre, Jeannette Zus, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Face à vous, Alexandre Robinet-Borgomano, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes expert associé sur l'Allemagne pour l'Institut Montaigne. Vous travaillez par ailleurs au sein de la Banque franco-allemande de Oddo BHF. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
C'est au fond une amitié bien plus qu'une coopération que nous voulons ancrer et ce que nous avons appelé ce réflexe franco-allemand que nous voulons réinstaller partout. Et dans la tribune que nous avons aujourd'hui publiée ensemble, comme dans tous les travaux que nous avons élaborés ces dernières semaines, et surtout tout le travail qui nous attend dans les semaines et mois à venir, nous souhaitons que l'action se construise systématiquement ensemble. Nous voulons répondre ensemble aux défis que l'Europe affronte. Nous voulons ensemble agir sur les sujets prioritaires à nos yeux, la souveraineté, la sécurité, la compétitivité.
La voix du président de la République, Emmanuel Macron, qui accueillait le nouveau chancelier allemand le 7 mai dernier, Alexandre Robinet-Borgomano. Est-ce qu'on assiste, selon vous, à une nouvelle phase dans cette relation franco-allemande, dans ce couple franco-allemand, ou bien on est d'abord là dans un exercice classique de communication pour accueillir dans ses nouvelles fonctions le chancelier?
Je crois que jusqu'ici, on est dans un exercice extrêmement classique qui consiste à rappeler les anciens symboles et à réactiver toute la symbolique qui entoure ce couple franco-allemand. C'est important de rappeler qu'on parle de couple franco-allemand en France, qu'on n'évoque jamais ce terme en Allemagne, où on parle davantage de tandem ou de moteur franco-allemand. Cette volonté du président de la République, qu'on vient d'entendre, d'évoquer le réflexe franco-allemand, elle est très intéressante. Et pour comprendre ce qu'il y a comme sous-jacent, je pense que le mieux, c'est de revenir à un texte fondateur de Luc van Middelaar, historien et philosophe néerlandais qui avait publié dans le débat il y a quelques années un texte qui s'intitulait « France-Allemagne, l'incompréhension permanente ». Il montre très bien cette dialectique très riche de l'incompréhension entre la France et l'Allemagne qui se construit en trois moments. D'abord, des propositions françaises qui se heurtent à une incompréhension, une indifférence allemande. Ensuite, une appropriation tardive par l'Allemagne. En troisième moment, une élévation au niveau européen. Et je pense que cette dialectique mise en évidence par Luc van Middelaar, elle est essentiel pour comprendre ce qu'est aujourd'hui ou ce que peut être le réflexe franco-allemand.
Je reviens quand même un instant sur ce que vous disiez. On est les seuls en France à parler de couple franco-allemand. Les Allemands n'emploient pas le terme. Ils parlent plutôt d'ailleurs de tandem. Qu'est-ce que ça veut dire? On est les seuls à être mariés dans ce couple-là? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
On a cet imaginaire romantique qu'on applique à beaucoup de réalités sans que cet imaginaire soit nécessairement partagé par nos partenaires.
Jeannette Zus, comment vous voyez vous-même la situation? On est dans une phase de renouveau, encore une fois, dans un schéma extrêmement classique.
Oui, il s'agit effectivement d'un schéma classique, sachant qu'il y a eu quelques chanceliers ou chancelières qui n'ont pas fait cet exercice de cet ordre. Donc il y a eu Angela Merkel et aussi Gerhard Schröder, qui ne sont pas déplacés pour leur première visite à Paris, mais bien à Bruxelles, pour marquer aussi leur volonté d'aller de l'avant dans la politique européenne. Mais ce n'est pas parce qu'on se déplace à Paris que ça va se passer bien entre les chefs d'État et de gouvernement. Toutefois est-il que là, avec Friedrich Merz, ce qui était intéressant à observer, c'est qu'il s'est même déjà déplacé et a tendu la main à Emmanuel Macron bien avant d'être élu chancelier même. Donc il a vraiment essayé de mener des pourparlers déjà en interne pour voir un peu quelle pourrait être une nouvelle feuille de route en fait franco-allemande. Et de son côté, le président français Emmanuel Macron, il a fait pareil en demandant explicitement à tous ses ministres d'élaborer des propositions concrètes pour vraiment étoffer donc cette feuille de route franco-allemande qui verra le jour prochainement lors du Conseil des ministres franco-allemands à la fin de l'été.
Comment est-ce que vous mobilisez l'un et l'autre en tant qu'expert des relations franco-allemandes, cette notion de couple franco-allemand, est-ce qu'elle vous paraît pertinente pour comprendre l'Europe contemporaine en train de se faire, ou c'est au fond d'ores et déjà une notion un peu obsolète? Jeannette Zus, pour commencer.
C'est bien sûr, c'est pas suffisant, mais c'est quand même la condition préalable pour parvenir à un consensus au sein des États membres de l'Union européenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que l'Allemagne et la France se mettent d'accord, ça peut avoir des répercussions répercussions positives sur les autres. En fait, de facto, les pays sont quand même assez éloignés l'un de l'autre, pas forcément sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique, leur modèle industriel, leur histoire, bien sûr, leur politique de sécurité, avec des paradigmes différents, leur modèle énergétique aussi, bien sûr, entre autres, juste pour citer quelques exemples. Et si ces deux pays vraiment arrivent à se mettre d'accord, c'est pas gagné, mais c'est quand même un très très bon début. On a bien vu, par exemple, pour le plan de relance Next Generation EU, suite à la pandémie du Covid-19, c'était le point de départ pour qu'il y ait ce plan à l'échelle européenne.
Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre Robinet, Borgomano? Est-ce que cette notion de couple franco-allemand, c'est un truisme ce que je vais dire, mais est-ce que c'est pas une vision extrêmement franco-allemande de l'Europe? Que se disent les Polonais, les Espagnols quand ils entendent parler de cette notion?
Bon, je partage l'avis de Jeannette. Je crois que rien n'est possible en Europe sans une entente préalable entre la France et l'Allemagne.
Mais
et
tout le monde
est
d'accord avec ça.
Il y a eu une inquiétude de la part des pays européens devant l'incapacité de Paris et de Berlin à s'unir au cours des trois dernières années. Une absence de leadership venant de Berlin, venant de Paris, venant de cet axe franco-allemand et qui était extrêmement pénalisant pour l'Europe tout entière. Donc je suis assez d'accord avec Jeannette sur ce point. Après, je pense que, on parlait de truisme ou on parlait de vision romantique, la différence c'est que en France tout commence par des discours, alors qu'en Allemagne, tout commence par le fait de regarder la vérité en face. Politique Begin mit der Betrachtung der Wirklichkeit, c'est une phrase que répètent tous les chanceliers les uns après les autres. Si on regarde la réalité en face, ce couple franco-allemand, il est aujourd'hui très déséquilibré. Les ordres de grandeur sont plus les mêmes. Le PIB de l'Allemagne, c'est 4185 milliards. Le PIB de la France, c'est 2800 milliards. Le solde commercial, c'est plus de 100 milliards côté allemand, plus ou moins 100 milliards côté français. Le déficit public est 2,8% côté allemand, 5,8% côté français. C'est comme si aujourd'hui, la France était pour l'Allemagne un amant ancien, avec lequel elle a construit des choses immenses, un amant dont elle ne peut pas se défaire parce qu'il lui est indispensable, mais qui est aujourd'hui drogué au nucléaire et fiché à la Banque de France.
On entend les forces objectives de l'Allemagne en comparaison de celles de la France, et pourtant, Jeannette Huss, l'Allemagne, c'est notre sentiment, ici en France, n'a jamais autant douté d'elle-même, de son modèle, de sa place dans l'Europe, de son avenir même sur le continent.
Absolument, et en fait je contredirais légèrement Alexandre en disant qu'il y a quand même une certaine fascination d'un côté aussi pour la France, bien sûr pas concernant le bilan économique qui est quand même beaucoup moins bien que celui de l'Allemagne, mais il y a ce leadership affiché sur le plan politique, notamment incarné par Emmanuel Macron depuis 2017, depuis son discours de la Sorbonne, et ce paradigme de la souveraineté européenne.
Grand discours sur l'Europe.
Exactement, qui a été quand même accueilli très positivement, pas forcément accueilli avec ou retorqué par une réponse qui n'a pas trouvé des échos au niveau des chefs d'État et de gouvernement, au niveau du chancelier. Mais en général, la population allemande, en fait, aime bien Macron. Pour autant, concernant la situation en Allemagne, effectivement, elle est relativement morose. C'est déjà la deuxième année consécutive que l'Allemagne est entrée en récession. Elle est un peu en crise concernant son modèle, que ce soit industriel, mais aussi, bien sûr, énergétique, avec le tournant tout à fait massif qu'il a dû opérer suite à la guerre en Ukraine et sa dépendance énorme vis-à-vis du gaz russe, mais aussi l'avenir de son industrie, le manque de numérisation, ainsi de suite. Donc il y a quand même beaucoup de chantiers sur lesquels l'Allemagne doit travailler. Donc il s'agirait aussi à l'avenir de travailler ensemble dans le cadre de l'Union européenne pour améliorer cette souveraineté européenne dont Macron parle depuis 2017.
Voilà ce que dit, ce qu'affirme même Sylvain Kahn dans la revue Le Grand Continent. Le couple franco-allemand relève d'une psychologisation très française de la relation bilatérale. Alexandre Robinet, Borgomano, est-ce que on a tendance, c'est vrai, peut-être à accorder un rôle trop important à la relation qui se joue entre deux exécutifs? Est-ce que la relation entre deux hommes, un homme, une femme, parfois, est-ce que c'est cela fondamentalement qui peut être moteur de la construction européenne?
Je crois que oui, l'entente entre les hommes, elle est très importante. Hélène Mière-Delacroix, grande historienne des relations franco-allemandes, publie prochainement un livre sur les émotions dans la relation franco-allemande. Ces émotions, elles sont incarnées par des personnes, et donc ces personnes, elles sont indépassables. Après, c'est cette focalisation exclusive sur les chefs de l'exécutif qui me paraît problématique.
On a tort ?
On a aujourd'hui des couples franco-allemands, au niveau des gouverneurs des banques centrales, par exemple, François Villeroy de Gallo, Joachim Nagel, entretiennent une entente très forte au sein de la BCE. Ils font, permettent de faire avancer des projets concrets. On a notre ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qui s'entend très bien avec son homologue Boris Pistorius, les deux étant des personnalités politiques très, très appréciées dans leur pays respectif.
On pourrait parler... d'être renommé ministre de la Défense dans le gouvernement actuel,
exactement,
en fait,
c'est
pas pour
avec,
rien.
Avec une volonté de faire avancer des projets concrets, et c'est au niveau, au-delà de tête de l'exécutif, que ces ententes de personnes me paraissent essentielles pour faire vivre la relation franco-allemande.
Et la Pologne, dans tout ça, Jeannette Zus, on dit beaucoup que désormais ce couple devrait être un trio, parce qu'au fond, la Pologne acquiert, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine, notamment avec des dépenses en matière de défense qui augmentent extrêmement rapidement, on dit que la Pologne devrait être elle aussi intégrée à ce duo. Alors désormais, c'est un trio qui tire l'Europe vers le haut, je ne sais pas, mais qui approfondit cette construction.
Je ne dirais pas que c'est tout récent, parce que c'est quand même depuis 2022, comme vous venez de dire, depuis la guerre en Ukraine, qu'il y a eu vraiment cette volonté de retravailler avec la Pologne. Donc c'est déjà aussi sous le gouvernement précédent, notamment à travers les initiatives des ministres des Affaires étrangères avec Annalena Baerbock, qu'il y a eu donc des rencontres régulières entre la Pologne, la France et l'Allemagne. Mais il est vrai que, en particulier Friedrich Merz, il a vraiment souligné l'importance du triangle de Weimar. C'est aussi stipulé dans le contrat de coalition qui est en quelque sorte placé au même titre en fait que le partenariat bilatéral avec la France.
Le triangle de Weimar, on voit aussi ce que c'est,
et
c'est évidemment
aussi
la Pologne, l'Allemagne et la France.
Exactement, donc notamment des rencontres des ministres des Affaires étrangères. Et on l'a bien vu aussi à travers la visite de Friedrich Merz, qui a donc effectué sa visite à Paris et à Varsovie le même jour, et c'était extrêmement important pour lui d'afficher cela, et il a corroboré aussi lors de son premier discours au Bundestag que la Pologne, c'est vraiment au même titre au niveau de l'importance de ce couple franco-allemand. Puis il faut dire encore que la France a signé un traité d'amitié avec la Pologne, donc là aussi c'est la France qui avait quand même des relations historiquement un peu moins intenses que l'Allemagne avec la Pologne, et là elle rattrape un peu son retard.
Traité d'amitié qui couvre notamment des sujets de défense. Alexandre Binet, Borgomano, sur la position justement de la Pologne, est-ce qu'elle vient renforcer ce couple franco-allemand? Est-ce qu'elle vient l'enrichir, ou est-ce qu'elle vient justement relativiser son poids au sein de la construction?
Je crois que ça a été une illusion pendant les trois dernières années, au moment où la relation franco-allemande ne fonctionnait pas, de s'imaginer que de faire entrer une troisième personne, ça allait réactualiser ce lien. Aujourd'hui, on voit effectivement le fait nouveau, c'est l'insistance que porte Friedrich Merz à cet équilibre entre Paris et Varsovie et Berlin au milieu, mais je pense qu'il faut élargir et voir l'importance qu'accorde le nouveau chancelier également à Londres et au Royaume-Uni. Et donc, il y a dans les positions internationales de l'Allemagne aujourd'hui cette volonté de créer non plus un couple ou un triangle, mais réellement une alliance qui implique Tusk, Starmer et Emmanuel Macron. Et je crois que c'est important de garder ça à l'esprit, parce que ça montre bien ce qu'est devenu l'Allemagne au cours des 10 dernières années, une puissance centrale en Europe qui est devenue une vraie puissance d'équilibre au cœur de l'Union européenne.
Retour le 7 mai dernier lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et Friedrich Merz, et ils évoquent l'un et l'autre un premier conseil des ministres franco-allemands.
Monsieur le chancelier, cher Friedrich, je me réjouis de l'ambition que nous avons décidé de porter ensemble et de ce réflexe commun. Je sais aussi, nous venons de décider que nous aurons l'honneur à l'été de tenir le premier conseil des ministres franco-allemands dont nous avons acté le principe. Et merci surtout du travail immense qui nous reste à faire dans des temps ô combien historiques. Je suis très heureux que nous ayons l'opportunité de le faire ensemble.
Monsieur le Président, cher Emmanuel, meine Damen und Herren, ich bedanke mich zunächst sehr herzlich.
Tout d'abord, un grand merci au président français pour son aimable invitation, et avec notre souhait de vraiment approfondir, intensifier la coopération entre la France et l'Allemagne. Je crois que c'est le bon moment de le faire. Je me réjouis à la perspective de le faire tous deux ensemble. Merci.
On dit, on lit, on entend, Alexandre Robinet et Borgomano, que ce nouveau chancelier serait francophile, très enclin justement à s'appuyer sur ce couple franco-allemand pour mener une politique européenne. Ça, ce sont les discours du chancelier. Est-ce que sa coalition le permet ?
C'est très juste de montrer cette dichotomie entre Friedrich Merz, qui est un homme de Rhénanie, enfin de Sauerland, qui a toujours été tourné vers la France, qui s'inscrit dans la lignée de Kohl, d'Adenauer, de Schäuble, de grandes personnalités politiques allemandes extrêmement francophiles. Je crois que sur le bureau du chancelier, il y a une photo de Gaulle et d'Adenauer. C'est une anecdote qui explique quand même assez bien la puissance de ce lien franco-allemand dans l'esprit du chancelier. Si on compare le discours que Friedrich Merz a tenu devant la Körber-Stiftung en janvier dernier sur la politique étrangère, qui faisait état de la nécessité de faire avancer avec Emmanuel Macron l'idée d'une Europe souveraine. Et ce qu'on retrouve dans le contrat de coalition qui a été signé par la CDU, la CSU et le SPD, qui est un peu la feuille de route du gouvernement allemand pour les prochaines années, on voit effectivement qu'il y a un écart qui pourrait susciter des déceptions du côté de Paris.
Sur quel sujet alors ?
Sur les sujets du rapport aux États-Unis, notamment. Le président... Friedrich Merz avait pu donner l'impression de vouloir se rapprocher de façon très nette des positions françaises et du principe de souveraineté européenne et de prendre une certaine distance vis-à-vis des alliés. Il l'avait répété le soir de l'élection au Bundestag en disant l'Europe doit désormais être plus indépendante de Washington. Or, dans le contrat de coalition, on rappelle que la relation entre l'Allemagne et les États-Unis est une success story qu'il convient de poursuivre. Le gouvernement rappelle son attachement à la dissuasion nucléaire américaine et sa volonté de créer un nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc il y a là peut-être une dissension entre un chancelier profondément pro-français qui doit composer avec, d'une part, un gouvernement
plutôt francophile, disons, pas encore français, mais
pro-français, enfin francophile pour le parti français, et une opinion publique et une coalition qui peut-être moins allante.
Jeannette Huss, votre point de vue, est-ce que le duo Merz-Cron, j'ai appris que la presse allemande qualifiait ainsi le duo entre Friedrich Merz et Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs une expression pas très phonétiquement agréable. Jeannette Huss, est-ce que vous pensez que ce duo pourrait être ralenti dans ses initiatives par la coalition de Friedrich Merz, coalition CDU-CSU-SPD ?
Oui, effectivement, il se posera la question concrètement comment la coalition va travailler ensemble, notamment donc entre la CDU et la SPD. Boris Pistorius est plutôt un exemple positif, je dirais, et c'est probablement pour ça qu'il a été renommé d'une coalition, d'une coopération positive entre donc la CDU et les SPD. Après, sur d'autres sujets, il va falloir voir justement ce que ça donne. Il faut comprendre aussi qu'il y a une base pour les partis derrière qui est extrêmement importante. Donc en Allemagne, c'est vraiment le Parlement qui a son mot à dire. Donc c'est vraiment une démocratie parlementaire. Et donc il ne suffit pas d'avoir l'entente entre les ministres. Il faut aussi accompagner ce processus en ayant en trouvant le consensus au sein des partis. Et là, j'aurais quand même encore des interrogations. On a bien vu aussi, par exemple, sur le débat d'augmentation de dépenses de la défense, qui pourrait aller jusqu'à 5% du PIB allemand, ce qui est tout à fait considérable. Donc, ça serait 225 milliards d'euros par an, ce qui serait la moitié, en fait, du budget fédéral annuel de l'Allemagne. Lars Klingbeil, donc le nouveau ministre des Finances, a déjà exprimer ses réticences. Donc, c'est pas parce que ministre déclare quelque chose que ça va se faire en interne, mais on peut s'attendre quand même à un leadership plus clair de la part de Friedrich Merz, qui a dit qu'il veut justement mettre fin à ces dissensions en interne au sein de la coalition.
On va revenir évidemment sur cette question centrale dans le couple franco-allemand de la défense. Je reste quand même un instant sur ce couple, indépendamment de toute politique publique, Alexandre Robinet-Borgomano. On disait que le couple Macron-Scholz avait été l'un des pires dans l'histoire de ces duos franco-allemands. Qu'est-ce qui avait à ce point dysfonctionné entre les deux hommes ?
Peut-être d'abord le fait que Emmanuel Macron, en tant que président de la République, avait eu à travailler avec Olaf Scholz en tant que ministre des Finances d'Angela Merkel. Et que donc il n'a jamais vraiment regardé Olaf Scholz, Augenhaue, comme on pourrait dire en allemand, les yeux dans les yeux, qu'il l'a toujours considéré avant tout comme un ministre avant de le considérer comme son équivalent.
Son élection par la suite n'a pas suffi.
C'est une hypothèse seulement. Après, il y a des tempéraments très différents. On a un chancelier extrêmement taciturne, extrêmement intelligent aussi, qui était hérité l'héritier d'une tradition hanséatique, plus tournée vers la Baltique et vers le monde anglo-saxon. Ils n'ont pas réussi à se retrouver. On a des images emblématiques des couples franco-allemands du passé. Si on remonte pas trop loin, on voit Angela Merkel et Nicolas Sarkozy réglant la crise financière sur la plage de Deauville. On se souvient des grandes commémorations de Kohl et de Mitterrand. La seule image qu'on gardera de Scholz et d'Emmanuel Macron, c'est sans doute cet épisode avec les Fischbrötchen sur les plages de Hambourg.
Il y a eu des erreurs aussi, des frictions, mais des erreurs d'abord et avant tout côté français, non, Jeannette Duch, je pense notamment au retrait de l'armée française au Sahel. Les Allemands l'ont appris dans le cadre d'un débat parlementaire. Ils n'ont même pas été alertés par la diplomatie française, par le Quai d'Orsay. Je pense aussi à l'envoi d'armes en Ukraine. Il y a eu quand même quelques erreurs diplomatiques, non, côté français?
Oui, notamment dans le domaine des affaires étrangères, sachant que c'est un domaine sur lequel la France et l'Allemagne sont censées se concerter étroitement. C'est vraiment stipulé dans le traité Aix-la-Chapelle, qui est le traité qui a suivi au traité de l'Élysée, mais de facto, c'est notamment dans ce domaine où, bien sûr, c'est un peu la prérogative du président français aussi, où il y a eu un manque de concertation. Ça, clairement. Après, les initiatives n'ont pas manqué, où l'Allemagne a, de son côté, aussi mal informé ou peu informé la France. Je pense à ce fonds massif d'investissement et d'aide au niveau national, les 200 milliards en Allemagne, que la France a pris tardivement. Je pense aussi à cette initiative du bouclier aérien, ça s'appelle ESSI, donc European Sky Shield Initiative, que l'Allemagne avait lancé en 2022 sans concerter préalablement la France. Et du coup, la France a aussi initié sa propre initiative, donc deux initiatives complètement en parallèle.
Et des erreurs des deux côtés, alors.
Et voilà. Et aussi sur le nucléaire, bien sûr, une incompréhension totale, notamment de la part des Verts, qui faisaient partie donc, de la coalition feu tricolore précédente, vis-à-vis de cette position française qui consiste à considérer en fait l'énergie nucléaire comme une énergie bas carbone.
Bon, il faut tout de même en arriver à l'essentiel, Alexandre Robinet-Borgomano. Est-ce que le couple franco-allemand a le choix de se renforcer ou non au vu du nouveau contexte international? Je pense évidemment à l'élection de Donald Trump et au retrait relatif, mais retrait américain profond, notamment en matière stratégique en Europe et en matière de défense.
Aujourd'hui, on a un alignement des planètes qui est absolument inédit, absolument unique. La France et l'Allemagne n'ont plus d'autre choix que de s'entendre pour redonner une impulsion à l'Europe. Et elles le peuvent pour différentes raisons, parce que les grands différends du passé qui empoisonnaient la relation franco-allemande sont en train d'être progressivement mis de côté. Je vois trois sujets majeurs. C'est le premier, le rapport à l'endettement. Le deuxième, le rapport aux États-Unis. Et le troisième, la politique énergétique. Si on prend la politique énergétique, on a vu des déclarations de Macron et de Merz, lors de la visite de Merz à Paris à la suite de son élection, où Paris et Berlin s'engagent à aligner leur politique énergétique et à adopter à Bruxelles le principe de neutralité technologique, ce qui veut dire que, théoriquement, l'Allemagne ne devrait plus chercher à fragiliser le nucléaire français. Ce plan du rapport aux États-Unis, on le voit, l'Allemagne est contrainte à cette rupture d'époque, à réenvisager l'organisation de ses alliances et à se rapprocher de la France et à se mettre à distance vis-à-vis des États-Unis, parce que les États-Unis se retirent de façon très manifeste du vieux continent. Et enfin, sur le sujet budgétaire, qui a toujours aussi été un poison au sein de cette relation, on voit un mouvement exceptionnel de la part du chancelier Friedrich Merz, qui, en réformant le frein à l'endettement, qui avait été pendant des années le totem, le fétiche des conservateurs allemands, a quand même fait tomber un des obstacles principaux à l'entente entre la France et l'Allemagne.
Mais si je tire le fil, Alexandre Robinet-Borgomano, de ce que vous êtes en train de nous expliquer, je vais d'ailleurs prêcher pour votre paroisse, c'est ce que vous disiez un peu plus tôt sur le déséquilibre franco-allemand. Au fond, ce couple franco-allemand semble renaître parce que l'Allemagne y a intérêt et parce que l'Allemagne le veut bien aujourd'hui.
Je vais pas citer le général de Gaulle qui disait que les pays n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Aujourd'hui, c'est de l'intérêt de la France et de l'Allemagne de trouver un accord. Je crois que c'est ça que tout le monde doit garder à l'esprit. Ensuite, il y a un élément intéressant que Jeannette a un peu esquissé, c'est l'intérêt de l'Allemagne pour le modèle économique français. Les Allemands parlent des macronomics pour désigner ce trio de libéralisation du marché du travail, de politique d'attractivité du Standort Frankreich et de politique industrielle stratégique. Or, ce qu'on voit aujourd'hui de la part du nouveau gouvernement, c'est une volonté non pas d'imiter, mais peut-être d'adapter en créant un Choose Germany qui ne soit pas juste une copie de Choose France, mais qui montre un vrai attrait pour cette politique d'attractivité. On voit également le gouvernement qui développe une culture stratégique dans l'économie, qui s'inspire très largement des principes de politique industrielle prônés depuis des années par la France. Et puis ce plan de la libéralisation, on voit peut-être ce même effort, cette même volonté de Paris et de Berlin pour dégager les entreprises de toutes les normes et de toute la bureaucratie qui pèse sur elles et qui les empêche de rétablir la compétitivité de l'Europe.
Il y a une admiration, Jeannette Duss, ou du moins un intérêt des responsables politiques allemands pour ce qui est en train de se faire en France du point de vue économique ?
Notamment concernant les investissements étrangers, on peut clairement constater que la France se porte très bien. Et il peut y avoir des inspirations pour l'Allemagne. Toujours est-il, et Alexandre l'a rappelé tout au début de notre échange, que la France se porte beaucoup moins bien sur le plan économique quand on regarde les chiffres clés. Donc évidemment, surtout en première place, l'endettement et aussi la croissance qui est aussi pas géniale en France comme en Allemagne. Mais ce qui est clair, c'est que voilà, aussi le secteur, par exemple, des start-up, ça, c'est quelque chose qui est très, très dynamique en France. Mais aussi toute la question, en fait, et là, on voit vraiment une volte-face côté allemand et un rapprochement entre les deux pays, de cibler des industries clés et les promouvoir massivement. Ça, c'est vraiment une approche française qui vient, bien sûr, aussi de l'histoire de la France avec le commissariat au plan, Jean Monnet, et tout ça, et qui était complètement différent en Allemagne. L'Allemagne voyait toujours d'un œil sceptique l'idée de trop guider l'économie par le dirigisme français, et là on voit vraiment une remise en question de ce modèle allemand qui se concentre seulement sur les forces du marché. Là, il y a vraiment une volonté beaucoup plus de guider le marché et d'investir massivement dans des industries clés.
Sur la guerre en Ukraine, Jeannette Duss, est-ce qu'on observe là aussi un rapprochement entre les deux exécutifs franco-allemands? On sentait bien des différences substantielles entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz sur le sujet de la guerre en Ukraine, notamment sur la façon dont il fallait peut-être encadré, dont il fallait même, j'allais dire, discuter avec Vladimir Poutine et avec la Russie. Est-ce que là, Friedrich Merz et Emmanuel Macron sont peu ou prou sur la même ligne?
Alors, ce sujet, je le trouve un peu curieux dans l'évaluation des relations franco-allemandes concernant l'Ukraine. Parce que d'un côté, vous avez raison certainement en mentionnant que la façon de comment Macron s'y prenait divergeait par rapport à la façon dont les Allemands s'approchaient de Poutine. Mais de l'autre côté, concernant l'initiative, le soutien de l'Ukraine sur le plan militaire, les deux pays sont les deux pays qui investissent le plus en Ukraine, l'Allemagne encore plus que la France.
C'est vrai.
Donc,
sur le
Une faute de communication aussi, en quelque sorte, de l'ancien gouvernement Scholz.
C'est vrai sur le rapport à l'Ukraine, mais sur le rapport à la Russie, dans la manière, j'allais dire, de conduire diplomatiquement cette relation, certainement parce que les intérêts de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie ne sont pas les mêmes que ceux de la France, mais tout de même, il y a eu, non pas des divergences, mais des différences importantes.
Bien sûr, d'un côté, la naïveté allemande, notamment, comme je le mentionnais déjà, vis-à-vis sa dépendance du gaz russe, qui représentait 55% de son approvisionnement énergétique. Et de l'autre côté, la France, avec donc ses tentatives diplomatiques de tendre la main encore vers la Russie, ce qui a surtout déplu aux pays baltes et à la Pologne, d'où la nécessité de se rapprocher de la Pologne par la suite. Mais là, je pense qu'effectivement, il y a une vraie volonté, on l'a déjà vu lors des pourparlers sous le format de Weimar Plus, donc la France, l'Allemagne, la Pologne et notamment le Royaume-Uni, parler à Donald Trump pour que lui parle à Poutine. Pour l'instant, ça n'a pas encore porté ses fruits. Mais il y a quand même un langage de pouvoir qui est différent et à travers Friedrich Merz aussi un alignement entre les deux positions.
Comment est-ce que vous qualifieriez les choses, Alexandre Binet, Borgomano, sur la question de l'Ukraine? Merz, Macron, deux volontaires, si je puis dire?
Un volontaire et un velléitaire. Je pense que c'est important, je vois les choses
qui
de façon
qui, alors,
un tout petit peu différente que Jeannette. Si on regarde la façon dont l'Allemagne et la France ont apporté un soutien à l'Ukraine, et si on revient encore une fois aux chiffres, c'est assez accablant pour la France. On entend très souvent à Paris que l'Allemagne hésite lorsque la France agit. Dans les faits, le soutien à l'Ukraine depuis le début des hostilités, il s'élève à 17,3 milliards pour l'Allemagne, 5,2 milliards pour la France. Si on rapporte au PIB, la France arrive 16e ou 17e pays européen dans le soutien à l'Ukraine, là où l'Allemagne est classée dans les 5 premiers. Et donc je crois qu'il y a là une différence sur le rapport à la
16e
Russie.
16e ou 17e, dites-vous ?
rapporté au PIB. Dans les 10 premiers, si c'est en volume. Sur le rapport à la Russie, il y a eu une naïveté, un aveuglement de la part de l'Allemagne, qui est un aveuglement coupable. C'est le scandale Nord Stream. Côté français, il y a peut-être eu un aveuglement qui, lui, est lié à une forme d'hubris, la conviction que le président, en s'adressant à Poutine, pourrait régler la situation, ce qui s'est avéré profondément et totalement illusoire.
Dans cet alignement de planètes, il y a tout de même quelques frictions, à commencer par la question centrale, là aussi, dans la relation franco-allemande, des accords commerciaux.
En matière de politique commerciale en Europe, nous voulons faire des progrès. Ce n'est plus la compétence des États membres, c'est une compétence exclusivement européenne. Vous connaissez mon opinion personnelle, que l'accord avec le Mercosur devrait être rapidement ratifié et mis en œuvre. Mais nous cherchons encore d'autres partenaires commerciaux. Nous soutenons la Commission dans cette recherche de partenaires commerciaux. C'est le bon moment de préparer de nouveaux accords de libre-échange et de les ratifier.
Friedrich Merz traduit lors d'une conférence de presse donnée à l'Elysée encore une fois le 7 mai dernier. Jeannette Zus, cette question là encore des accords commerciaux avec une Allemagne plutôt encline à avancer sur la question du Mercosur, la France plutôt réticente sur ce sujet. Comment on explique là cette divergence?
Oui, c'était assez intéressant d'observer que Emmanuel Macron n'avait pas vraiment réagi par rapport à ces observations de Merz ou à cette revendication même de signer l'accord de libre-échange, même si on entend parler de la part des diplomates qu'il y a un certain rapprochement, un certain assouplissement de la position française. Mais Emmanuel Macron, il fait que rappeler que voilà, c'est vraiment les droits des agriculteurs qui devraient être respectés et qu'il faut des clauses miroirs. C'est vraiment ça le mot-clé. Et la position allemande, elle est tout à fait différente. Elle vient bien sûr d'un point de départ complètement différent parce que l'Allemagne est vraiment très très dépendante de ses exportations. C'est 50% en fait de son PIB qui donc se base sur les exportations. Pour la France, c'est beaucoup moins. Et c'est notamment essayant de diversifier suite au choc géopolitique qu'on a subi avec la Chine et bien sûr aussi les États-Unis maintenant avec des couplages potentiels des États-Unis qui étaient même le premier partenaire commercial de l'Allemagne, que l'Allemagne doit trouver des nouveaux marchés. Il serait erroné en fait de croire qu'il n'y a pas des craintes aussi en Allemagne, par exemple pour les agriculteurs, qu'il pourrait y avoir des inconvénients.
Qui sont dans une situation similaire d'ailleurs à ceux des Français.
Exactement, mais c'est un secteur un peu moins important pour l'Allemagne. C'est notamment bien sûr l'industrie en fait qui pourrait donc bénéficier de ces nouveaux marchés. Mais je pense le compromis, ça va être de mettre l'accent sur de nouveaux partenaires avec d'autres pays comme le Vietnam, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, et de devoir passer donc l'accord à travers l'Union européenne sur la partie de l'accord qui peut être conclue de la part de l'Union européenne et laisser de côté la France sur d'autres sujets.
Alexandre Binet-Bourgoumanou, si je caricature, la France défend ses agriculteurs, l'Allemagne défend ses industriels dans ce dossier Mercosur?
C'est un petit peu caricatural, mais un petit peu vrai néanmoins.
J'avais prévenu. Hein.
Je crois que la France ne doit pas oublier que cette diversification des marchés est également dans son intérêt. On l'a vu, l'état de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis pèse davantage sur l'Allemagne que sur la France. Néanmoins, diversifier les marchés, trouver des nouveaux débouchés pour les industries françaises s'avérera également dans les années à venir essentiel. C'est pour ça que ces accords de libre-échange, s'ils sont davantage équilibrés, sont à la fois dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt de l'Allemagne.
Friedrich Merz dit vouloir réduire drastiquement la dépendance de l'Allemagne à l'égard de la Chine. On comprend bien pourquoi, mais comment peut-il y parvenir là? Quel est son plan, sa vision stratégique dans ce domaine? Alexandre Binet, Bourgoumanou pour commencer.
Il y a eu pour la première fois sous Olaf Scholz une China Strategy qui actait le fait que la Chine n'était plus tant un partenaire et un concurrent, mais davantage un rival systémique. Cette stratégie qui est appelée par Olaf Scholz le de-risking, elle sera progressivement amplifiée et maintenue. Elle repose avant tout sur la capacité d'adaptation des entreprises du tissu industriel allemand. Ces entreprises familiales, ces entreprises de taille intermédiaire qui sont souvent indépendantes et qui peuvent assez facilement, si les conditions politiques s'y prêtent, changer de marché, changer de géographie et s'adapter à la conjoncture.
Jeannette Duss, sur ce sujet.
Oui, je ne suis pas entièrement d'accord. En fait, j'ai au moins des points d'interrogation concernant l'avenir de la politique chinoise du gouvernement sous Friedrich Merz, parce qu'il faut rappeler en fait que c'était le ministère des Affaires étrangères qui était maintenu par les Verts. Et eux, ils parlaient de wertegeleitete Außenpolitik, c'est-à-dire une politique des affaires étrangères orientée vers les valeurs et portée par les valeurs. Alors que maintenant, ce qu'on voit dans le contrat de coalition, c'est une interessengeleitete Außenpolitik, donc porté par les intérêts. Donc il y a beaucoup plus cette approche un peu opportuniste potentiellement qu'on pourrait voir malgré les discours de Friedrich Merz. Donc il faut vraiment voir, il va falloir voir concrètement ce que ça veut dire. Et en fait, ce que je trouvais assez intéressant aussi, c'est qu'il y a une initiative de la part des entreprises. Il y a une trentaine d'entreprises qui ont écrit une lettre ouverte contre cette idée de déclarer la Chine comme étant donc en rival systémique, comme Alexandre l'a rappelé, en disant que voilà, l'économie allemande dépend massivement de la Chine, ne serait-ce que pour les matières premières, et ça serait complètement leurre de croire qu'on pourrait se passer de la Chine du jour au lendemain.
Vous avez évoqué un peu plus tôt dans cette conversation, Jeannette Duss, la question budgétaire centrale dans la politique de Friedrich Merz, qui marque d'ailleurs une rupture avec ses prédécesseurs, puisqu'il a décidé, fait le choix d'investir massivement des centaines de milliards d'euros dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du climat également. Quelle a été, face à cela, la réaction française? Est-ce qu'on se dit « enfin l'Allemagne investit » ?
Absolument. Il y avait un peu une réaction « ça y est, enfin la mutualisation de la dette », parce qu'en fait, c'est ça ce qui est derrière. En soi, bien sûr, c'est une décision qui encombe à l'Allemagne. Il s'agira donc de investir massivement, en fait, notamment dans les infrastructures, à travers le fonds spécial à hauteur de 500 milliards d'euros sur 12 années. Et puis, il y a donc ces 1,5% du PIB. À partir de 1,5% du PIB, les dépenses de défense seront exemptées du frein à l'endettement, la Schuldenbremse. Et donc, en soi, au premier abord, ça n'a rien à voir avec la France. Mais
c'est une règle constitutionnelle qui permet...
Exactement, c'est inscrit dans la loi fondamentale de l'Allemagne. Mais en fait, là où ça pourrait avoir des répercussions, c'est en tout cas un peu des fantasmes français, si vous voulez, c'est que ça pourrait avoir donc des répercussions sur l'échelle européenne et permettre donc à l'Union européenne de s'endetter massivement. Mais ça, c'est pas du tout gagné, ce débat.
Votre point de vue sur ce sujet, Alexandre Robinet-Borgomanou, est-ce qu'en France, il y a peut-être trop d'attentes vis-à-vis de la politique budgétaire allemande?
Deux points. Je pense qu'il y a une attente qui est tout à fait légitime. C'est celle que ce plan d'investissement massif, il va représenter un stimulus fiscal qui va nécessairement avoir un impact positif sur l'économie allemande et sur l'économie européenne. Personne n'a jamais cru qu'une économie allemande atone pouvait être positive pour l'Europe. Donc ça, je crois que ce fait que ce soit reçu très positivement par Paris et par les capitales européennes, ce plan de relance massif, c'est un point très important. Deuxième point important, c'est un peu cette leçon de keynésianisme que nous donne l'Allemagne aujourd'hui, en montrant que une politique keynésienne, c'est une politique contracyclique qui consiste à mettre de l'argent de côté en période d'expansion pour pouvoir la réinjecter dans l'économie en période de récession.
Quand ça va mal, on investit.
Or, la France a tendance à dépenser en permanence, sans chercher ni à épargner, ni à investir, et donc, à cet égard, ne mène pas du tout une politique keynésienne.
Merci beaucoup à tous les deux de ces éclairages. Jeannette Duss, je rappelle que vous êtes chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alexandre Robinet-Borgomanou, expert associé sur l'Allemagne pour l'Institut Montaigne. Vous travaillez par ailleurs au sein de la banque franco-allemande Odo BHF. Merci beaucoup à tous les deux.